Alors, on parle comme c'est l'occasion, aux 2 semaines en général. On a manqué notre dernier petit rendez-vous, Daniel. Désolé pour ça. On est avec Daniel Daou,
Oui.
qui est un passionné d'histoire de la vallée de la Gatineau en particulier, puis passionné d'histoire d'une
En
façon
général.
générale. Ça va bien?
Ça va très bien, merci.
Alors, vous vouliez nous parler cette semaine, vous vouliez continuer la série sur la drave, mais plus particulièrement au niveau des outils et des choses qui étaient utilisées par les travailleurs.
Oui. Si on a fait la drave dans la vallée de la Gatineau, c'est dû à un événement spécifique au moment où le Canadian International Paper a acquis 3600 km² de terre de bois de la Couronne entre 1925 et 1928. Puis il y avait aussi une condition. Le gouvernement de la Couronne céder ce 3600 km² de terre à bois, mais il y avait la condition, c'était de bâtir une usine à Gatineau pour transformer le bois pour en faire du papier,
okay.
pour l'envoyer spécifiquement au New York Times et Washington Post.
Oh, okay. Pour les journaux.
C'est que ça servit vraiment pour les États-Unis pour faire les deux principaux journaux de New York. C'est que la CIP récoltait annuellement tout près de 1,3 million mètres cubes de matière ligneuse. Avec un tel volume de récolte, le coût du transport sur la rivière Gatineau était seulement de 4 $ par mètre cube. Si on compare aujourd'hui avec un camion, ça coûterait environ entre 15 et 20 $ le mètre cube.
Quand même.
C'est que c'était très avantageux.
Mm-hmm.
Il y avait une question aussi de pollution. C'est que le transport par la drave, par le flottage du bois, ben, ça ne polluait pas l'air comme les camions pourraient le faire.
C'est vrai.
Donc, le transport de bois, la drave sur la Gatineau, se faisait par une technique qu'on appelait à bûche perdue, où les bûches suivaient individuellement le débit du courant. La descente du bois nécessitait parfois des infrastructures particulières destinées à éviter la formation d'embâcles. Et quand on parlait d'infrastructures particulières avec des arbres, on faisait
des grandes lignées, comme on peut dire.
Grandes lignées, oui, pour dévier le bois, justement, pour qu'il accroche partout.
OK.
S'assurer qu'il n'y ait pas d'embarque. Mais c'est sûr qu'à la quantité qu'on faisait flotter au printemps, là, il se formait des embarques aussi.
Oui.
Puis on avait coupé tout l'hiver pour mettre sur la glace. Là, on mettait le bois sur la glace à l'attente de la fonte des neiges, que le bois prenne son chemin sur la rivière. Le métier de draveur nécessitait une attention constante, une bonne force physique, un sens de l'équilibre hors de l'ordinaire pour se déplacer d'un bio à l'autre et une connaissance approfondie des cours d'eau de flottage. Chaque année, toutefois, un nombre élevé de draveurs périssait noyé ou écrasé en voulant dégager un embarque.
Donc là, ce qu'on voyait dans les films, justement, sauter d'un bio à l'autre, là, ça se passait pour de vrai. Là. C'est pas de la fiction. Là.
C'est pas de la fiction.
C'est ça.
Puis on avait un spécialiste ici dans la vallée de la Gatineau, un monsieur qui s'appelait Éloi Saint-Amour, qui demeurait à Grand-Remous. Puis lui, justement, a perdu un de ses frères près du tourbillon à Grand-Remous, où lui était tombé à l'eau, puis le courant l'a emporté, puis il s'est noyé. Ça, c'était vraiment une grande peine pour son frère. Puis Éloi, lui, ben, c'était vraiment monsieur draveur de la région.
OK.
Lui-même, il a participé à l'émission La Petite Séduction.
Oui. Okay.
La 6e d'émission avec Patricia Paquin.
C'était presque des super-héros, ces gens-là.
Oui, absolument. Puis même, il était rendu dans un âge assez avancé. Puis il nous a fait une démonstration à l'émission de La Petite Séduction.
Ça vaudrait d'être revu.
Oui, absolument. L'outillage du draveur se limitait à quelques outils essentiels pour son travail. Le crochet, appelé aussi grappin, le pic, la gaffe, le pivet ou le croque-à-main ou tournebille. Ces outils servaient notamment à repousser dans le courant les billes échouées, à les diriger dans les passes difficiles ou à briser les embarques en tentant de repérer la clé de jam, qu'on appelait.
Et ça, tous ces outils-là, dans le fond, on dirait que c'est comme beaucoup pour avoir sur une même personne. C'était chacune des personnes avait tout ça, tout dépendant de la mise en situation, du besoin, ou c'était vraiment chaque personne était attitrée à un travail en particulier?
Chaque outil était attitré à une manœuvre spécifique.
Okay.
Comme le tournebille, lui, servait vraiment à tourner les billes.
Oui.
La pive en fer lui servait à pousser, à tirer les billes pour les décoincer dans l'embarque. Puis même, on servait jusque souvent que dans les gros embarques, on n'était pas à bout de dégager, on servait même de dynamite.
Oui.
Même, il y a des mauvaises langues qu'à une certaine époque, dans les problèmes de, comment qu'on appelait, le FLQ venait chercher le dynamite dans la région.
Oui,
ça provisionnait des draveurs. Mais ça, c'est des... Je sais pas,
c'est on a
pas
vu.
C'est du whizzy, c'est ça.
C'est des whizzy.
OK.
Le draveur se distinguait des autres travailleurs de la forêt, non seulement par son chapeau ou sa casquette à visière qui le protégeait des rayons aveuglants du soleil sur l'eau, aussi par des bottes cloutées qui lui permettaient de courir sur les billes sans glisser ou se mouiller.
Ah, OK, c'était ça le secret.
Ça vraiment comme des genres de bottes hautes cosaques avec des boulons vissés en dessous.
Wow. OK. Ça, c'était confection, comme on pourrait dire, artisanale, là, c'est eux autres qui les faisaient. Là.
C'est, moi, disons, c'est le cordonnier qui avait, avait développé une technique pour Ça fait que la rivière Gatineau, qui a plus de 400 km au plus loin point du nord du territoire de la rivière Gatineau, et de l'usine de papier à journal située au sud de ce territoire dans la ville de Gatineau. C'était 440 km, je pense, exactement, du nord jusqu'au sud, justement, pour faire flotter le bois, pour l'amener à l'usine de pâte et papier.
C'est long, longtemps.
C'est long, longtemps.
Est-ce qu'il y avait un corridor qui était prescrit pour ça? Parce qu'il y avait, j'imagine, d'autres activités sur la rivière, des gens qui faisaient de la pêche, tout ça. Est-ce qu'il y avait un endroit en particulier où on avait comme un genre de chenail pour la drave ou si c'était généralisé? Puis
la drave prenait la rivière au complet. Ça créait un problème un peu, c'est sûr, pour les gens qui voulaient aller à la pêche.
Ouais.
Mais ils allaient à la pêche sur les billots. Puis on pêchait le doré sous les billots.
Okay.
Souvent, il y avait des estacades qui étaient en attente pour justement se faire draver jusqu'à l'usine. Et les gens allaient pêcher sous les billots.
Okay.
C'est une... Pourquoi qu'on a cessé la drave? C'est sûr qu'il y avait
le danger.
Le danger. Puis avait... Mais les gens voulaient aussi récupérer leur plan d'eau.
Ben oui, c'est ça.
Ben oui.
Puis à l'époque, les gens bâtissaient les maisons. Ils voulaient tellement pas voir les billots passer sur la rivière que sur le côté de la rivière, on ne mettait pas de fenêtre.
OK. On dirait que dans notre tête, la drave, on pense aux années 1800, 1700, mais c'est vers quelle année que ça l'a complètement cessé?
Ça cessé en
1991. C'est surprenant.
La toute dernière, en 1992, là, on a ramassé ce qui restait sur le bord des rives. Puis sur la rivière Saint-Maurice, c'était un peu plus tard, je pense, en 1995.
Wow! OK. Et donc, ce métier-là, c'est complètement perdu, en quelque sorte.
Oui, absolument. Il y a un hommage qui a été fait au draveur en 2018 par le Centre d'interprétation. Parce que là, vraiment, on a pu récupérer tous les noms des draveurs qui avaient travaillé dans la région. Et même les Autochtones, il y avait beaucoup d'Autochtones qui ont travaillé à la drave.
Mm-hmm.
On les a donné comme un certificat d'honneur.
Et en terminant, s'il y a des gens qui veulent peut-être en apprendre davantage sur ce métier-là qui n'existe plus, est-ce qu'il y a des ressources dans la région qui parlent un peu de l'histoire de la drave dans la région, dans quelques municipalités ou peut-être des plateformes web, par exemple?
Pour la région aussi de la vallée de la Gatineau, c'est sûr qu'on avait le Centre d'interprétation de la protection de la forêt. On avait beaucoup d'explications. Mais là, il n'y a pratiquement plus rien dans la région.
Okay.
Si on veut avoir plus d'informations, il faut se déplacer vers Trois-Rivières. Eux autres qui ont développé vraiment un musée sur la drave avec la rivière Saint-Maurice, que c'était le même principe, eux autres. Mais eux autres, il y avait plusieurs usines de pâte à papier sur la rivière. Les gens qui ont développé ce musée-là sont venus chercher beaucoup d'expertise à notre Centre d'interprétation.
Ah bon, parfait. Okay. Ben, c'est quand même pas savoir si jamais quelqu'un se déplace dans ce coin-là ou simplement sans référer à certains ouvrages qu'on peut avoir dans notre réseau biblio ici, là, certainement.
Oui, absolument. Ou tout simplement appeler des gens qu'on peut m'appeler, on peut me communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de leur donner des détails.
Pour obtenir de l'information là-dessus.
Oui.
Si une jeune personne a un travail là-dessus, par exemple, ou quelque chose comme ça.
Absolument.
Daniel, un grand merci de votre visite aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bonne journée.